J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane et Fred de l'association Voix Libre Drôme. Voix Libre Drôme s'occupe entre autres de la maison d'Elisa. C'est un lieu d'accueil pour personnes en exil qui se situe à Vercheny, dans la vallée de la Drôme, entre Saillant et Die. L'association tente actuellement de racheter la maison d'accueil pour pérenniser son action auprès des publics migrants, toujours en difficulté. Et bonne nouvelle, vous pouvez éventuellement les y aider. Stéphane et Fred, bienvenue. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Est-ce que vous pouvez nous donner chacun quelques fragments de votre parcours pour qu'on apprenne à vous connaître et nous dire ce qui vous a amené à vous engager au sein de Voix Libre Drôme ? Fred ?
Pour ma part, je suis arrivé dans la région il y a 5 ans maintenant. Au départ, on était dans un petit village qui s'appelle Barsac, qui est à côté de Vercheny. Et puis, on a accueilli un peu, ça est tombé un peu, je dirais par hasard, comme ça, un jeune Guinéen, Hassan, donc, qui a logé chez nous pendant 4 ans à peu près. Et à l'époque, à Barsac, il était un peu isolé. C'est vrai que la maison de Vercheny, on en avait entendu parler, donc on a eu des contacts comme ça au départ. Donc Hassan y allait régulièrement parce qu'il rencontrait des gens qui avaient vécu les mêmes choses que lui. Il parlait pas très bien français, il était guinéen, il parlait malinké, il retrouvait des gens qui parlaient malinké. Donc lui, ça lui permettait d'avoir un lien social, quoi. Donc on est rentré en contact avec Voix Libre comme ça. Et puis depuis quelques mois, moi je me suis engagé un peu plus comme membre actif depuis quelques mois, je vais dire 6 mois par là. Voilà. Au moment où justement ça, on cherchait un peu du monde pour le projet de rachat, donc voilà, on s'est engagé avec ma compagne tous les deux.
Stéphane, toi tu es un peu là depuis l'origine de l'association, comment ça s'est passé ce début de Maison Elisa ?
Ouais, effectivement. Donc l'origine, donc il y a à peu près 6 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été quelques personnes à être sensible et avoir été touché par ce qui se passait par rapport à toutes ces personnes qui arrivaient que ce soit de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique. Moi personnellement, je suis originaire du nord de la France et j'ai vécu notamment à Calais. Et du coup, j'ai vécu notamment l'expulsion de la jungle, qu'on a appelé la jungle à Calais alors, je ne sais plus les années, mais bon, il y a quelques années. Et du coup, moi, je fais un peu de vidéos. Et du coup, j'avais suivi un peu tout ça. J'avais été passé un bon mois là-bas, dans ce camp incroyable où il y avait 6000 personnes qui vivaient, qui s'étaient installées là et qui avaient mis en place toute une vie. Que ce soit avec des bars, avec de la musique, enfin, il y avait vraiment un univers incroyable là-bas. Et c'était un choc pour moi de découvrir tout ça. De percer un petit peu ce qu'on nous disait, cette peur qu'on essayait d'insuffler par rapport à toutes ces personnes et ce camp notamment, et puis en fait d'avoir été vivre là-bas et d'avoir noué des contacts avec des personnes là-bas, des familles, etc. Moi ça m'a transformé, hein, c'était un choc. Et du coup je voyais un peu ce qui se faisait au niveau des médias et voilà, c'était pas du tout ce qui se passait vraiment là-bas. Et donc du coup j'ai eu envie avec ma caméra d'essayer de faire ressortir un petit peu la vie qui s'y passait là-bas, notamment le côté au niveau de la musique qui me touchait beaucoup. Et puis après il y a eu l'expulsion, voilà, où j'ai essayé d'être là pour témoigner de ce qui se passait et contrer un peu les mensonges de l'État qui à l'époque faisait croire qu'il laissait le choix aux personnes et que si elles voulaient rester elles pouvaient, etc. Et qui même allait jusqu'à mettre le feu aux cabanes des gens qui ne voulaient pas partir, enfin bref, c'était assez abominable. Donc j'ai essayé de faire des choses avec ça, et puis je pense qu'une fois qu'on a mis le pied là-dedans et qu'on s'est rendu compte un peu de ces injustices, moi ça m'a plus quitté. Et du coup j'ai, dans la Drôme, ouais, avec d'autres on a eu envie de s'impliquer. Certains étaient passés à Briançon, sur Die il commence à y avoir une dynamique pour créer une structure pour essayer d'agir. Et donc voilà, on s'est réunis. Et puis très rapidement il y a un couple d'habitants d'Aurel à côté de Saillant, de Vercheny, qui est venu nous voir dans une réunion et qui nous dit écoutez, nous on a acheté une maison, là, on va signer vendredi, on voudrait qu'elle soit dédiée à l'accueil. Donc c'était assez incroyable sur le coup. Et donc très vite, l'association, elle a une de ses principales activités, ça a été cette maison, d'abord pour la rénover. Donc on a mis en place un gros chantier participatif. Et c'était un moment assez incroyable, parce qu'on a accueilli déjà des personnes qui étaient chez des habitants, des habitantes. Et puis, ça a mélangé avec plein de personnes, plus d'une soixantaine de personnes qui ont filé la patte pour les travaux. On a fait ça en chantier participatif et c'était le début de l'aventure, quoi.
Et vous êtes rendu compte à ce moment-là que cette maison, elle répondait à un réel besoin. Vous avez découvert que de nombreuses familles accueillaient.
Ouais, bien sûr.
On est loin de Calais, on est loin des chemins qu'on imagine. Enfin, on n'est pas loin de Briançon quand même.
Pas loin de Briançon. Puis à l'époque, c'était un peu l'après Calais, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des CAO qui ont été créés. Donc ça a quand même fait un peu parler. Du coup, oui. Et puis à
des
Briançon.
Centres d'accueil ouverts.
Ouais, c'est ça. Et du coup, Briançon aussi, on est allé notamment chez Marcel, qui était un lieu d'accueil qui était ouvert. Et bien sûr qu'il y avait énormément de besoins, en fait, énormément de gens. Et donc très vite, il y a eu des personnes qui sont arrivées dans notre coin. Et la maison qui contient 10 chambres, elle a été très très vite remplie. Ouais. Et donc il y a une dizaine de personnes qui il y a 5 ans, à peu près il y a 5 ans, en 2018, se sont installées dans la maison. Et puis après, il y a eu toute cette vie qui s'est mise en place. Et depuis, une trentaine de personnes, en gros, qui ont...
30 ans, oui, trentaine de personnes...
Ouais, qui sont passées par la maison.
En 5 ans. Mm-hmm. Comment elles s'organisent, la vie de la maison? Les personnes arrivent, elles restent combien de temps, les personnes migrantes? Et est-ce que c'est co-géré? Comment ça se passe au jour le jour, là-bas?
Alors, nous, c'est vrai que dans la création de l'association, il y a eu, des points un peu centraux. Nous, ça a été de faire de l'accueil inconditionnel. C'était un premier... Voilà, quelque chose qui nous touchait beaucoup parce que il y a un peu d'accueil, même si c'est pas top du tout, qui est réalisé par l'État pour les personnes en demande d'asile, mais le pire encore, c'est pour les personnes qui sont hors du cadre de ce cadre-là. Donc nous, on avait envie de mettre un lieu où on regarde pas d'où viennent les personnes,
les papiers, etc.
Donc ça, c'est une première chose
de partir.
Et après, c'est vrai que c'était une grosse question, hein, comment se passe cette vie dans cette colocation. Quelque part, c'est une colocation à 10 personnes. Quelle place a l'association là-dedans? Quelles règles on met? Comment on fonctionne avec ces personnes? Nous, on était plutôt des personnes qui sommes sensibles à l'autogestion, à essayer de s'organiser de manière autonome, etc. Et donc, ça a été un cheminement. Hein. On a cheminé là-dedans avec parfois des tensions dans l'association parce qu'il y avait des différentes manières de voir sur justement cette place de l'association à donner des règles, mais jusqu'où, etc. Mais en tout cas, ce qu'on a envie de faire, c'est d'essayer de donner des outils à toutes ces personnes qui arrivaient pour qu'elles puissent, être autonomes, aller vers l'autonomie en tout cas. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que c'est des personnes qui ont des besoins vitaux à la base, quoi, qui arrivent d'un trajet qui est quand même assez abominable, c'est lourd, quoi. Et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte quand même assez que c'était des choses qui étaient un peu éloignées pour elles quand elles arrivaient, qu'elles avaient aussi besoin de sécurité, qu'elles avaient besoin d'un cadre. Donc tout ça, c'était en cheminant qu'on s'est rendu compte, qu'on a essayé de construire avec elles. Mais en tout cas, voilà, nous on a voulu les impliquer, c'est-à-dire que par exemple, elles ont une place dans l'association pour les réunions qu'on organise parfois à la maison. On a essayé d'organiser des choses aussi ensemble, avec des commissions, avec aussi les pièces de théâtre qu'on a montées, qui était aussi l'idée de faire ensemble, quoi, de ne pas faire que pour, mais faire avec. Donc ça, c'était quand même dans l'ADN de l'asso, c'est hyper important.
Fred, comment ça s'est passé justement? Il y a des tas d'autres projets qui sont nés au sein de la maison, des projets autour de la musique notamment, une cantine solidaire. Comment ça s'est passé, la création de ces projets?
Alors, moi je voulais dire, moi j'avais un œil un peu extérieur. Alors c'était important pour les gens qui arrivaient de se poser dans cette maison, mais c'était important aussi, je crois, pour les gens qui étaient accueillis ailleurs, d'avoir aussi cette maison comme Hassan qui était chez nous. C'était un lieu un peu référence.
Plus quand même, commun, plus communautaire.
Commun, voilà. C'était pas seulement pour les gens de la maison, je pense qu'il y a plein de gens d'extérieur, même des gens qui sont partis, qui reviennent. Enfin voilà, ça reste un point vraiment, ils peuvent se poser. Après, tout ce qui est pour les projets, il y a Herman qui est camerounais, qui fait du slam, qui était un peu un enfant des rues au Cameroun et qui s'est épanoui dans l'écriture, qui a pu mettre un peu. Donc, il était très branché musique et lui, il a créé un studio de musique dans avec trois fois rien. C'est un des merdards. Enfin, je sais pas comment il a fait, mais il a créé un studio de musique dans la maison. Donc, il a fait deux albums, il a fait des clips, il a accueilli le une classe de collège pour faire un album.
Enregistrement d'un CD.
Enfin, lui, il n'est plus dans la maison, mais c'est vraiment... C'est quelqu'un d'hyper dynamique et qui arrive avec trois fois rien à faire plein de choses. Et qui a un parcours pas possible aussi. Et donc, il y a eu ça. Puis, petit à petit, il fallait quand même trouver des sous pour la maison, je pense. Il y avait des dons, un peu, qui étaient faits. Mais il fallait quand même trouver un peu une activité qui permette de rapporter de l'argent pour les frais de la maison, quoi. Et donc, il y a cette idée de cantine qui s'est mise en place. Donc, sur des manifestes. Alors, il y a eu des cantines dans la maison, toute une fois par semaine à peu près.
Avec l'idée d'accueillir tout à chacun pour manger.
Ouais, les gens pouvaient prendre à emporter ou manger sur place. Voilà. Et puis, petit à petit, ça s'est développé vers des événements un peu plus gros, des concerts, des manifestations, des festivals, des réunions publiques. Moi, je sais qu'il y avait eu la France Insoumise, par exemple, où ils avaient fait
une cantine. Pas de pub.
Pardon, excuse-moi.
C'est trop tard.
Ça s'est développé. Puis c'est quelque chose que, si on arrive à racheter la maison, qu'on aimerait développer encore plus, justement, pour amener un peu d'activité.
Le lien avec l'extérieur aussi.
Non, ouais, le lien avec l'extérieur, et puis développer un peu ses cantines, quoi. Ouais, un peu plus.
Alors, ces projets accueillants sont souvent mal perçus par les habitants et les habitantes, les voisins, les voisines des lieux. C'est quoi les craintes que vous avez dû affronter? Tu l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, Stéphane. Ouais. Et comment vous avez contourné ou apprivoisé ces craintes dans l'environnement proche?
Je pense qu'au début, sur Vercheny, il y a eu tout un moment de doute et de questionnement sur le nombre de personnes qui allaient arriver. Les gens se sont imaginés qu'il allait avoir un centre, je sais pas, avec 50, 100 personnes. Donc ils ont été assez rassurés quand ils ont su que, en tout cas, par exemple au niveau de la mairie, du maire et des adjoints, etc. Voilà, ils ont été rassurés. Et puis nous, on a fait la démarche d'aller vers la population en organisant des petites soirées, déjà informées sur qui on était, qu'est-ce que ça allait être, etc. Et on a eu toujours cette volonté, effectivement, d'aller vers les voisins, les voisines, par ces cantines notamment, et puis en invitant les personnes à venir à passer boire un café, etc. Ça s'est fait progressivement, mais en tout cas, j'avoue qu'au début, on avait beaucoup de craintes. On faisait les travaux, le soir, on laissait les outils, on se disait, oh là là, il peut se passer des choses, quoi. Ou même des tags, on voyait Alex, où il y avait un SAO qui était arrivé, où c'était un peu tendu. Et puis en fait, non, ça s'est super bien passé. Les voisins, les voisines sont venus rencontrer. Et puis je pense vraiment que, toutes ces peurs qu'on peut avoir par rapport à plein de choses, hein, notamment les médias, ce qui peuvent ressortir, des discours politiques des fois, en fait, elles sont cassées dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a un regard, dès qu'il y a une parole d'échanger à la boulangerie, etc. Moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on a rencontré ces gens, on les a vus, on a vu, voilà, c'était pas des affreux profiteurs ou je ne sais quoi. Et bah du coup, voilà, ça casse beaucoup de barrières et je pense que ça fait un bien fou dans un village aussi de voir des personnes extérieures et différentes et petit à petit, ouais, on a vu des gens venir à la maison, au fait qu'on organisait, etc. Et plutôt, ouais, non, une belle installation et c'est aussi pour ça qu'on s'est posé la question, bien sûr, quand on a su que cette maison était en vente, on s'est dit, bon... Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se lance? Et ça a fait partie de la situation sur Vercheny a fait qu'on s'est dit, c'est vrai que maintenant la maison elle est installée,
les gens
connaissent.
On sont familiers.
Oui, bien sûr. Donc ça fait partie du fait qu'on a voulu s'impliquer dans le rachat de la maison.
Donc cette maison dans laquelle vous vous êtes investi à nombre de personnes est en vente. Il y a donc urgence à la racheter d'ici mi-mai, donc c'est très prochain. C'est très prochainement pour pérenniser le projet, le rendre aussi plus autonome. Comment vous proposez aux personnes, aux gens de vous aider?
Alors là, il y a deux formes. Donc il y a une forme par don, donc sur un site... On laissera peut-être les...
On va donner les coordonnées, puis elles seront aussi sur la page du site, bien sûr.
Des dons, alors on a fixé une limite à 500 € minimum pour le prêt.
Le don, il n'y a pas de limite.
Le don, il n'y a pas de limite.
De zéro à partir de zéro.
Ouais, pardon.
Ce serait dommage ensuite... de limiter les dons.
Pardon. Et ensuite, il y a un prêt, donc un minimum de 500 €. Et là, c'est un prêt, ce qu'on appelle un prêt solidaire. Donc, c'est un prêt à 0% et qu'on... qu'on souhaite, si c'est possible, sur plusieurs années, 10-15 ans, parce que nous, ça nous laisse le temps de réunir de l'argent et puis pour rembourser. Après, c'est adaptable aussi en fonction des ratas des gens. S'il y a des gens qui veulent prêter, je sais pas, 3000 euros, mais qui se disent « moi, j'ai un projet, ça se trouve dans 5 ans, j'en avoir besoin », on s'arrange, quoi. Après,
vous faites au cas par cas.
Voilà, un peu au cas par cas, voir avec
pour les conditions
pour les conditions de prêt. Ouais. Après, c'est une convention de prêt, hein, quand même. Donc, il y a un document juridique entre l'association et la personne. On signe une convention de prêt et puis dedans, ben, on met les désirs de.
Alors, c'est ça qu'il faut peut-être gens, quoi. Expliquer. Certaines ouais. personnes ne sont pas familières de ces prêts solidaires. Quand on dit prêt solidaire, on s'extrait du système bancaire, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas protégé par des écrits et une contractualisation de prêt, c'est ça ?
Oui, oui, complètement. C'est quelque chose qui est reconnu juridiquement et qui permet effectivement, si jamais il y avait un souci. Et vaut mieux prévoir, de fait d'avoir ce contrat garantit le fait de pouvoir être remboursé en sachant que c'est de la pierre. Et donc, cette maison, admettons, si ça...
Imaginons
que ça ne fonctionne pas, la maison, elle serait revendue. Et du coup, il y aurait un remboursement pour les personnes qui auraient mis l'argent. Mais nous, je pense qu'on a une base solide qui demande à être encore consolidée. Hein. On est preneur aussi de toute bonne volonté pour venir consolider l'activité de l'association. Mais en tout cas, il y a une base solide et on est une association qui faisons les choses à notre rythme, mais on fait les choses bien. Et on a depuis 5 ans, donc on était en gestion avec un prêt Comoda. Donc toutes les charges de la maison, on a toujours payé les charges comme il fallait. Et dernièrement, les charges ont bien augmenté. Ça aussi, ça a été un passage un peu pour l'association au niveau du chauffage, par exemple. On l'a bien senti, enfin, comme tout le monde, je pense. Mais là, c'est sûr que c'est une grosse maison. Donc voilà, donc c'est, oui, effectivement, c'est garanti. Et donc, on propose ce prêt avec cet engagement. L'idée, c'est pour le prêt, de faire des promesses, une promesse de prêt d'ici début mai. Et puis ensuite, on va faire un point début mai. On va regarder où on en est. Là, on est déjà... juste là ce matin, on est à 80 000 euros, un peu plus de 80 000 euros entre les prêts et les dons, donc on est super content. Ça avance bien, il manque encore des sous, mais ça avance bien. On a vraiment une dynamique qui s'est mise en place et beaucoup de personnes. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes qui donnent 500, donc il faut du monde, mais je crois que ça représente une cinquantaine de personnes déjà qui sont investies et qui vont nous aider. Donc ouais. Ça c'est super chouette. Et donc début mai, on va faire un point. Et puis, si on arrive à avoir la somme hein, de 200 000 d'ici le 10 mai, et ben, du coup, on enclenchera l'achat de la maison avec les propriétaires.
Si j'investis dans la maison, quel risque je prends en plaçant mon argent ainsi ? Parce que finalement, c'est une forme de placement qui ne rapporte pas, mais en tout cas, l'argent sert à quelqu'un avant que je m'en serve moi.
Le risque, c'est ce qu'on disait. Si vraiment ça ne marche pas, il y a la possibilité de vendre la maison. On a aussi un terrain de 1000 m², parce qu'il y a la maison avec un terrain de... Je ne sais pas combien il fait autour de la maison.
3000.
Et ensuite, il y a un terrain de 1000 m² à côté qui est constructible. Donc, on peut aussi éventuellement en revendre si à un moment, on manque d'argent ou que quelqu'un veut se rembourser, qu'on n'a pas tous les fonds. Donc, le risque, je veux dire, il est limité. Hein. Après, la maison, c'est de la pierre. Donc, il y a peu de chances qu'elle se déprécie complètement. Surtout qu'elle elle a été rénovée. Il y a eu des travaux de fait, donc elle est saine, la maison. Elle ne va pas se dégrader comme ça, elle ne va pas perdre de la valeur. Quoi. Donc le risque est assez limité quand même.
Et puis, on t'en a parlé, Fred, mais on souhaite aussi développer cette activité de restauration.
Oui.
Qu'on a déjà mis en place, mais on voudrait un petit peu la professionnaliser, en tout cas investir aussi dans du matériel, voilà, en lien avec une association qui est basée à Die, qui s'appelle La Trame, qui est en train d'essayer d'obtenir un dispositif qui s'appelle OACAS, qui est un dispositif qui a été mis en place en gros pour les Emmaüs et qui permet de rémunérer des personnes, peu importe si elles ont des papiers, si elles n'en ont pas, etc., de rémunérer des personnes pour faire une activité avec derrière une idée d'avoir un collectif, d'avoir de la formation, etc. Et donc, on est en lien avec l'association La Trame pour entrer dans ce dispositif. Eux, ils veulent développer deux activités, la restauration et l'entretien des les espaces verts, l'entretien des jardins, etc. Et donc ça aussi, c'est un point qu'on a envie de développer parce qu'on se rend compte que Ça fonctionne bien. On se rend compte qu'aussi, c'est super chouette pour la vie de la maison et de l'association, parce que c'est un gros partage de faire des repas, de les préparer, de les imaginer, etc. Et donc, du coup, c'est aussi... on a conscience. Après, c'est quand même... il va falloir le rembourser à un moment. Donc ça, on en a tout à fait conscience. Et c'est pour ça qu'on... en parallèle du rachat de la maison, on est aussi en train... De voir et de faire des démarches pour pouvoir avoir un peu plus, on est déjà un peu équipé, mais du matériel en plus, pourquoi pas un véhicule qui soit un peu pratique pour transporter et puisse faire un peu plus connaître au niveau des assos, des collectifs, des collectivités pour pouvoir proposer des repas pour un certain nombre de personnes. Ouais.
Et les associations d'accueil sont quand même relativement nombreuses sur le territoire drômois. On connaît notamment à Dieulfi l'association Espoir et la un peu plus jeune association Passerelle qui a elle aussi un projet de maison accueillante. Comment se passe la dynamique des échanges entre ces différents projets ? Est-ce que vous arrivez à justement vous soutenir les uns les autres ?
On est en lien, ouais. On est en lien avec la Tram à Die, avec la Passerelle justement, avec Exilé Crétois aussi à Cré. Donc on est en lien, on a eu des réunions justement où on a parlé un peu de tout ça, de comment justement on parlait par exemple avec la Tram de cette activité traiteur, mais ça serait aussi un échange si eux ont des personnes qui doivent être logées. Nous, il y a possibilité aussi que si on a de la place dans la maison, qu'elles soient logées en échange d'un petit loyer. Enfin voilà, s'il y a des personnes dont on entend parler qui peuvent être aussi logées, je sais pas, par le projet de la Passerelle. Et puis nous, on veut vraiment se concentrer sur l'accueil. Donc, tout ce qui est un peu démarche, etc., on veut un peu s'en extraire et justement les renvoyer vers des associations qui s'occupent plus spécifiquement de ces aspects-là. Donc, on est en lien, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Et on fait des réunions ensemble et on en discute, ouais, justement, pour essayer de mettre en place tout ça, quoi.
Ouais, et puis de chaque structure a aussi des spécificités, des savoir-faire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se... de pas faire les choses en double ou de pouvoir mutualiser à la fois le matériel, et c'est aussi l'idée avec la Pascal par exemple et son projet où il y aurait aussi l'idée d'avoir peut-être de la ressource sur place. Enfin voilà, on a un projet de cartographie aussi en ce moment. C'est-à-dire qu'avec des universitaires qui sont sur un projet de ce projet-là, avec les associations dont on a parlé, on est en train de réfléchir à mettre en place une carte un peu interactive avec toutes les ressources qu'il peut y avoir au niveau alimentaire, au niveau social, toutes les petites combines, les choses que chacun...
Qu'elles soient à disposition aussi des personnes qui sont peut-être sur la route, en transit.
Exactement. Aussi leur donner des outils pour que d'elles-mêmes, elles puissent avoir accès à toutes ces informations sans forcément passer par des structures. Toujours en ayant l'idée de développer l'autonomie.
Puis la demande est là, de toute façon.
La demande ne faiblit pas.
Ouais, non.
Vous recevez combien de demandes d'hébergement par semaine ou par mois ?
Alors, il y a des périodes où il y a un peu plus de demandes que d'autres. Là, on est plutôt dans une période où il y en a moins. Mais par exemple, en novembre-décembre, là, c'était 2-3 par semaine. On avait des demandes d'hébergement qui voilà, et donc il y en a des demandes, ça, il n'y a pas de souci.
Comment on fait quand on ne peut pas accueillir? Vous gardez des hébergements ponctuels chez des personnes, dans des familles ou...
Du coup, on est en lien avec des associations. Nous, il s'est trouvé que dans la maison, on a fait le choix il y a un an de mettre en pause l'accueil, c'est-à-dire qu'on peut accueillir 10 personnes, mais là, il y en a 5 qui sont hébergées, parce qu'on savait qu'il y avait ce projet de rachat qui allait nous prendre du temps, parce qu'on n'était pas assez à l'époque pour un accueil de 10 personnes, et on avait envie de bien faire l'accueil. Et donc, on a fait une pause, et donc, effectivement, ça a été très dur au début. Il y a plein de demandes, et nous, on a 5 places. Mais en même temps, on s'est rendu compte aussi que pour la viabilité d'une maison comme ça, et avec le nombre de personnes, c'est pas possible, en fait. Ça peut tenir une semaine, mais sur une durée un peu plus longue, ça met en danger un petit peu la maison. Donc, même si on a fait des petites entorses à cette règle, parce qu'il y a pu y avoir des gens, par exemple Maniouma, qui est arrivée à la maison, qui est suivie par Exilé Crétois. Donc il y a des personnes qui sont avec elle en lien, ce que nous, on ne pouvait pas plus faire. Donc c'est vrai que c'est compliqué au début. C'est sûr que répondre par la négative alors qu'il y a un peu de place, c'était un peu compliqué. En tout cas, là, on a l'objectif avec cette maison, donc dès qu'on aura acté le rachat, de progressivement repasser... voilà, que les chambres qui sont vides actuellement, elles puissent être, servir à d'autres personnes. Et donc ça aussi, je pense que c'est l'objectif à partir de septembre de recommencer à accueillir et accueillir bien.
Et accueillir bien, comme vous le faites déjà, mais encore mieux en professionnalisant un petit peu tout ça aussi. Bon, alors, quelles sont les étapes si là, je veux vous prêter de l'argent? On commence par envoyer un mail.
Alors, il y a deux choses. Oui, on peut envoyer un mail.
Avec la somme que je peux donner.
Avec la somme prêter, plutôt. Donner. on peut aller sur le site d'Eloasso.
Site, le plus simple, c'est d'aller sur
le site de Voies Libres.
Vous tapez Voies Libres Drôme, vous allez trouver, c'est Voies Libres Drôme, au pluriel Voies Libres.
wordpress.com.
Voilà. Et là, il y a toutes les infos.
Et après, donc il y a des promesses de dons qui sont faites et il y a aussi les numéros de Stéphane et Damien. Donc ils font partie.
Alors les numéros, donc, si vous voulez joindre Stéphane en direct, c'est 07, je peux. 80 66 52 15. Si vous voulez joindre Damien aussi, 06 78 08 11 18. Mais toutes les infos sont sur le site, c'est très
toutes
bien documenté.
Toutes les infos sont sur le site, les gens laissent leurs coordonnées. Nous, après, on les rappelle aussi pour savoir un peu comment ils veulent faire le prêt, dans quelles conditions,
Et c'est très adaptable. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner en direct, par téléphone. C'est souvent pas mal.
Mais c'est l'idée, soit de se rencontrer aussi. Si les gens passent du côté de la vallée de la Drôme et vers Saillancré, etc. Et puis aussi, on peut peut-être aussi parler de la soirée qu'on organise le vendredi 28 avril, où on va convier déjà toutes les personnes qui se sont manifestées pour un prêt, un don, certaines ne connaissant pas la maison. Et on va organiser une petite soirée pour faire un point où on en est. Et puis, on n'a pas parlé du four à pizza. On a aussi monté un four à pizza.
Donc, ce sera soirée pizza.
Donc, soirée pizza, des magnifiques pizzas qu'on va faire sur ce four qu'on a fait en projet collectif aussi. Et puis il y aura ensuite un petit concert, ça sera surprise dans la soirée. Donc c'est un bon moyen aussi pour venir vous rencontrer
donc le 28 avril,
vendredi 28 avril à Vercheny. Donc c'est 37 route d'Aurel, c'est dans le centre, sinon il faut demander dans le village, les gens connaissent. Et on va organiser cette fête dans le jardin et puis sous le préau là, de la maison.
Et on croise les doigts pour que ça fonctionne et que le rachat de cette maison
soit
effectif. Fred et Stéphane, merci beaucoup d'être venus nous parler de l'association Voies Libres Drôme. Donc on rappelle que vous pouvez devenir investisseur solidaire pour les aider à racheter la maison d'Elisa, une maison d'accueil pour personnes en situation de migration, enfin pour personnes migrantes, disons-le, situées à Vercheny. Voilà, pour relire toutes les infos, rendez-vous sur le site de l'association voieslibresdrôme.wordpress.com. À bientôt.
Salut.
Et merci, on prendra bien sûr des nouvelles de ce rachat. À très vite et on se quitte avec Herman, ton visage est sur le mien. À bientôt.
C'est toute ma vie à chercher, alors que c'est moi-même que je voulais. Ni le miroir, ni ma photo dans un cadre, ne présentait mon véritable visage. Aujourd'hui, j'ai constaté que mon visage, c'est toi, c'est lui, c'est elle. C'est tous les habitants du monde entier, faisons l'effort de nous aimer.
Car ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant de dire tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant de dire tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes.
Le monde valse dans une vague qui s'évade. Ça navire, j'avis si c'est la vie, je m'évade. Le monde valse dans une vague qui s'évade. Ça navire, j'avis si c'est la vie, je m'évade. Comme un idiot, je me suis foutu dans la haine sans pitié. C'est un fardeau. Comme un idiot, je me suis foutu dans la haine sans pitié. C'est un fardeau. Moins d'ennemis, plus d'amis. Je me vois sur ton visage et j'ai bonne mine.
moins d'ennemis, plus d'amis. Et je me vois sur ton visage et j'ai bonne mine. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant d'aider tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant d'aider tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. J'ai passé toute ma vie à chercher, alors que c'est moi-même que je voulais. Ni le miroir, ni ma photo dans un cadre ne présentait mon véritable visage. Aujourd'hui, j'ai constaté que mon visage, c'est toi, c'est lui, c'est elle. C'est tous les habitants du monde entier. Faisons l'effort de nous aimer. Car ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant de dire tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant de dire tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. Trahison est dans les yeux de celui qui la regarde et qui la garde. Traite dans la détresse, sans regret tu me maltraites. Vaut mieux un lâche vivant sans remords qu'un héros mort. Black, blanc, albinos, métis, on est tous les mêmes. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. On est tous les mêmes, on est tous les mêmes. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. À parler de tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. J'ai passé toute ma vie à chercher, alors que c'est moi-même que je voulais. Ni le miroir, ni ma photo dans un cadre ne présentait mon véritable visage. Aujourd'hui, j'ai constaté que mon visage, c'est toi, c'est lui, c'est elle. C'est tous les habitants du monde entier. Faisons l'effort de nous aimer. Car ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien.